Donc bonjour, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton travail?
Salut, alors effectivement, je suis infirmier. Mon travail, c'est simple, c'est prendre soin des patients dans un service de soins bien spécifique. En gros, ça dépend si les personnes ont besoin de soins intensifs ou de neurologie, d'urgence. Ça dépend vraiment des critères, c'est ça qui est assez cool dans le métier d'infirmier, on peut être dans tout ce qu'on veut. Personnellement, je viens d'arriver sur Caen, donc j'ai été sur un service saisonnier qui aidait les urgences à pallier à l'affluence massive de patients cette saison. Et en fait, en plein pendant ce contrat, on a eu à faire face au Covid-19 et mon service s'est transformé en service d'accueil justement pour cette nouvelle pathologie qu'on connaissait pas. Donc alors moi des Covid, j'en ai fait pas mal de dépistage, mais après j'ai lâché un peu le bateau, j'ai quitté le bateau après. Donc je pourrais pas forcément te parler des cas en réanimation, je pourrais te parler un petit peu de comment on a accueilli cette crise si tu veux.
Carrément. Et donc justement, donc t'es arrivé exactement quand toi au niveau du CHU, dans quel mois?
Alors, moi je suis arrivé au mois de janvier, donc c'était tout frais et en fait ils avaient vraiment un besoin, pour t'expliquer, de te la refaire un petit peu. Tous les hivers, il y a énormément de grippe et de gastro. On sait qu'il y a une population vieillissante quand même dans notre région, et un peu partout en France d'ailleurs, avec une région qui a un désert médical. C'est-à-dire que les patients qui vont pas bien et qui n'ont pas de médecin traitant, bah, ils viennent facilement aux urgences pour tout et n'importe quoi et surtout un maintien à domicile difficile. Ce qui fait que ces patients, ils arrivent aux urgences et après, ils peuvent pas rentrer chez eux. En fait, ils sont pas aptes. Et donc, on a énormément de patients qui stagnent aux urgences et c'est ça qui fait que c'est compliqué en cette saison. Et nous, on essaie de leur trouver un petit peu un devenir tout en gérant les infections pulmonaires, les grippes, ce genre de choses et la possibilité d'avoir un retour à domicile qui était efficace. Donc ça a commencé en janvier. À cette époque, on avait déjà entendu parler du Covid. Alors dans mes souvenirs, c'était au mois de décembre. On parlait pas mal de ça lorsque c'était en Chine, donc ça paraissait assez lointain. Voilà, donc tout janvier, en fait, on n'en a pas du tout entendu parler ici. Ça ne nous regardait même pas. Les gens étaient assez peu informés.
Donc c'est à partir de quand que vous avez eu vraiment votre premier cas au niveau de Caen?
Alors, ça s'est un petit peu échauffé rapidement. Franchement, j'ai plus trop les dates en tête, mais je sais que nous, on a été obligé d'ouvrir en urgence un service au mois de mars, donc tout début mars. Et dans les mêmes eaux, tu as eu le premier cas qui était ouais, entre le 5 et le 10 mars. Donc c'est là qu'on a accueilli notre premier cas. C'était une personne qui était assez jeune, donc à la surprise un petit peu générale, mais elle allait assez bien. Donc voilà pour l'arrivée du Covid. Ça s'est fait rapidement, hein, je te dis, en une semaine ou deux, on a dû changer tout un service, donc faire sortir 12 patients et tout préparer les locaux. Et on n'était pas forcément prêt pour ce qui est matériel. Ou même au niveau des soignants, tu vois.
Ouais, genre vous aviez pas forcément de formation derrière, ni de matos pour répondre à la crise, quoi.
Ouais, c'est ça, d'autant plus pour quelque chose qu'on connaît pas trop, hein. Franchement, là, on est dans le confinement, on est le 4 avril, et si on se souvient bien, quand c'est arrivé ici, on savait même pas ce que c'était. On comparait ça encore à une grippe saisonnière. Et du coup, au niveau du matériel, on se protégeait un maximum. Donc il fallait énormément de matériel, mais on savait même pas trop si c'était manuporté ou avec des gouttelettes. Tu vois, enfin, pour te dire
Si
un
c'était
petit
par
peu dans quel
aérosol ou
hasard.
si c'était par contact direct, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc en fait, faut voir aussi comment on s'équipait. On mettait des surblouses, on mettait des gants, des surgants, on mettait des surchaussures, des charlottes, des lunettes, enfin tout le tintouin. Et ça, franchement, ça c'était plutôt bien. Mais on a bien vu que le matériel commençait rapidement à dépérir. Alors j'ai des chiffres, hein, c'est sûrement anecdotique parce que j'ai pas pu les vérifier. Mais avant la crise, on avait 6 000 masques à peu près, il me semble, donc des masques chirurgicaux. Ces masques-là, visiblement d'après les études, au début c'était, ils protégeaient le porteur du Covid pour éviter, enfin, ils protégeaient les gens autour de nous, mais ils nous protégeaient pas nous. Et dès que ça a commencé, donc dans la première semaine dont je te parle avec le premier cas de Covid, tous les masques étaient sous clé, c'était n'importe quoi en fait. On avait
Comment ça se fait
affaire
qu'ils ont
à
été mis sous clé? Pour dans quelles circonstances et pourquoi?
En fait, il y en avait peu et je pense qu'il y a eu un effet de peur. Alors, je pense qu'il y a déjà du commerce, un effet de peur. Les gens, ils font des réserves. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a possiblement eu des vols ou une surutilisation. On a des histoires comme ça dans d'autres hôpitaux. Moi, franchement, je suis pas à même de te dire dans quelles conditions ça a été, mais on avait plus beaucoup de masques lorsqu'on en avait besoin. Et après, d'un coup, on nous dit, bah non, c'est plus du tout ça aujourd'hui. Maintenant, il faut les mettre sous clé. Et si on a 2 boîtes de 10, c'est déjà bien pour une journée, quoi.
De toute façon, vous, en tant que personnel hospitalier, vous voulez changer tous les combien les masques
Alors, à cette époque-là, c'était les personnes qui portaient des masques, c'était ceux qui étaient en contact avec les patients infectés.
D'accord.
Et donc, ou alors les suspicions. Pour te rappeler, à l'époque, lorsqu'on dépistait quelqu'un, donc avec un écouvillon nasal, ça demandait 24 à 48 heures, puisqu'au tout début de la crise, c'était pas testé à Caen. C'était dans trois villes en France, ouais, mais pas à Caen. Ensuite, nous, on a eu notre système, donc ils ont commencé à lancer les tests. Mais il faut rester sur 24 à 48 heures pour savoir si un cas est positif ou s'il est négatif. Pendant ce temps-là, nous, on était obligés de nous habiller et du coup de porter des masques. Donc ça, c'était ça qui mangeait beaucoup de masques. C'était pas le fait de se protéger avec le seul cas de Covid qu'il y avait à ce moment-là, quoi.
Mais les personnes, pendant 24 à 48 heures, elles restaient donc dans un service spécialisé à des suspicions potentielles de Covid ?
Tout à fait, c'est ça. Et donc, c'est ce fameux service où j'ai pu faire l'ouverture. Et donc, on n'avait pas trop le choix, quoi. Il fallait aussi se protéger, puisqu'on avait quand même des patients de tout type qui arrivaient avec une fièvre et une toux. Donc, ouais, dans ces cas-là, on pouvait dire que c'était effectivement des Covid.
Voire même asymptomatique, peut-être ?
Alors, nous, on n'avait pas les asymptomatiques, puisque au final, à l'époque, au début, on dépistait, et maintenant c'est un peu toujours pareil, on dépiste vraiment que les personnes qui ont des symptômes. On dépistait pas les personnes qui étaient asymptomatiques, ou alors juste l'entourage d'un patient infecté, il me semble. Mais nous, en fait, on n'a pas eu de cas asymptomatique.
Enfin, du moins, vous le saviez pas forcément, parce que justement, ils ne présentaient pas de symptômes, quoi. Et donc, justement, les gens étaient mis au même endroit, une fois en attente de résultats de tests.
Ouais, les gens étaient mis au même endroit en attente de tests. Alors, forcément, là, il y a aussi le problème du service à risque. Je vais te parler, par exemple, au niveau personnel. On se dit, mince, là, je suis en train de m'occuper d'une nouvelle pathologie, visiblement avec un taux de contagion qui augmente chaque jour, une maladie qu'on connaît pas, dont on n'a pas encore de traitement, qui fait beaucoup de décès. Et donc au niveau personnel, on se dit bon, on n'a pas beaucoup de matériel. Déjà, en se protégeant, il y a quand même un risque d'avoir ce fameux Covid. Alors quand on sera plus au point au niveau du matériel, c'est sûr qu'un jour on l'aura, quoi. Donc au début, en tant que soignant, franchement, c'est un petit peu lourd, je trouve. Mais notre but, c'est de soigner. Si on commence à se dégager de cette situation et de prendre peur, qui va soigner tous ces gens, quoi.
Et donc après, tu connais des collègues à toi qui l'ont attrapé ?
Alors, pareil, la situation a fait beaucoup parler. En fait, il y a eu des situations dans l'hôpital où je suis, où il y a des gens qui ont été testés, alors que ça faisait une semaine qu'ils étaient dans un service, donc tout le monde allait les voir sans se protéger. Et au bout d'une semaine, on se rend compte qu'il est Covid. Il a peut-être vu une cinquantaine de soignants, il a été ausculté par une dizaine de médecins, et personne s'est protégé, et ce patient, il était déjà Covid. Il a peut-être toussé, ce genre de choses. Donc on s'est dit, au final, ça peut aller très très vite, quoi. Bon nombre de mes collègues se sont fait dépister puisqu'ils ont présenté des céphalées, donc des maux de tête, avec une fièvre plus ou moins élevée, de la toux et puis de la fatigue. Et il y a beaucoup de soignants quand même qui ont présenté des signes de ce genre, hein, et moi personnellement aussi. Je faisais jamais de migraine et je me suis retrouvé assez fatigué pendant quelques jours à avoir des migraines. Et c'est possible qu'on l'ait eu, en fait. Je pense personnellement qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on ne croit qui l'ont. Et au niveau des soignants, c'est un passage obligé, j'ai l'impression de l'avoir. Alors peut-être que je me trompe, hein, bien sûr, peut-être que je me trompe, mais je pense que énormément de soignants ont été porteurs sains et ont été vecteurs, du coup, de la prolifération du Covid contre eux, tu vois. Alors même en ayant du matériel jetable, t'imagines ce que ça serait si on n'avait plus de matériel jetable. La moindre personne qui n'est pas Covid qui rentre aux urgences, elle devient tout de suite.
Quand vous manquiez de matériel, est-ce que vous avez fait comme ce que j'ai pu voir avec des sacs poubelles, un peu du système D pour essayer de vous protéger un minimum, ou comment vous avez fait exactement ?
Alors, les sacs poubelles, franchement, je l'ai pas vu, je l'ai pas fait. Nous, en fait, on arrivait à anticiper. En fait, on disait, bon, on utilise un masque toutes les 4 heures, on élargit à toutes les 6 heures, et en fait, on n'a pas été en pénurie stricte, je vais dire ça comme ça. On a réussi toujours à allonger les temps de port du masque ou de protection, mais on n'a pas été avoir des sacs poubelles. Il y a eu aussi quand même, sur Caen, on a de la chance, il y a pas mal d'entreprises, que ce soit dans la peinture, le BTP, je pense, qui ont beaucoup aidé. On voit sur les réseaux qu'il y a des gens qui donnent des masques, ça franchement c'est une superbe initiative. Donc on a réussi à tenir comme ça. Mais en fait, le problème, c'était qu'au début on nous disait, bah non, il n'y a pas de port de masque à avoir tant que vous ne voyez personne qui est infecté. Sachant qu'on ne diagnostiquait pas les gens, ou très peu. On avait des gens autour de nous qui avaient de la fièvre, qui toussaient, mais s'ils n'étaient pas étiquetés Covid positif, bah non, vous n'avez pas le droit de porter le masque.
Mais c'est complètement contre-productif, en fait, parce que là, tu pouvais avoir des gens, justement, qui pouvaient être, avoir le Covid, et justement, vous ne saviez pas, en attendant des résultats, enfin, même s'il était asymptomatique, ils pouvaient le propager, et si vous n'aviez pas de masque, ça pouvait être extrêmement problématique.
Ouais, c'est sûr, ça pouvait être extrêmement problématique. En fait, je pense qu'ils étaient pris un petit peu dans un étau. Si on disait, bon, allez, tout le monde porte des masques, et la pénurie, peut-être qu'elle aurait été venue plus vite, mais là, on aurait été vraiment pénurie sèche, où on n'avait plus du tout de masques, et là, franchement, ça aurait été très très grave, je pense. Là, ils ont réussi à temporiser, on va dire ça comme ça, mais nous, ça nous a mis en première ligne, quoi.
Mais attends, après par contre, moi justement j'ai entendu des déclarations quand même assez alarmantes de, je crois que c'était la secrétaire d'État qui disait que non mais de toute façon le port du masque ne sert pas à grand chose, ne protège pas, c'est uniquement pour limiter la diffusion justement du virus lorsque vous êtes porteur. Est-ce que c'est réellement le cas ou est-ce que c'était juste des bullshit?
Alors, de toute façon, ils sont en train de revenir sur ce qu'ils disent. T'as l'OMS quand même qui a préconisé le port de masque pour toutes les personnes qui voient du monde. En fait, dès qu'on sort, on devrait porter un masque. Ils sont en train de dire ça, justement. Ça change là, tu vois. Aujourd'hui, ils commencent à revenir un petit peu sur ce qu'ils ont dit. Et ouais, enfin, ça a été une grosse bourde. Et puis, t'as des journalistes aussi qui ont reconnu. Alors, pareil, à voir dans ce flot de fake news. Il y a des journalistes qui ont dit qu'ils avaient eu de la pression par l'État en disant qu'il fallait pas porter de masque pour éviter la pénurie et l'effet de pénurie. Donc, au final, là, tu vois, je pense qu'il y a la pénurie, on va pas avoir de pénurie, on va toujours être ça va être compliqué, mais on va pas avoir de pénurie, on aura plus du tout de masques. Maintenant, visiblement, on arrive à s'approvisionner un peu mieux qu'avant avec des masques qui viennent de Chine ou même des masques faits en France. On a quand même des entreprises françaises qui font des masques, des entreprises, je sais pas, qui faisaient des jeans. Il y en a une en France apparemment et qui s'est mis à faire des masques. Donc, on a cette chance là, tu vois. On n'est pas comme d'autres pays, l'Espagne ou l'Italie qui ont vraiment galéré. Apparemment, on leur aurait boycotté, enfin, on leur aurait squeezé des masques. Tout ça.
Ouais, j'ai entendu, mais pareil, j'ai ouï dire des histoires d'Américains qui rachetaient sur le tarmac des masques à la volée, comme ça, avec des valises de cash. Ils rachetaient au prix fort des masques qui étaient destinés à d'autres pays.
Ouais, c'est sûr, ça paraît assez hallucinant. Alors, si c'est vrai, franchement, c'est révoltant. Pareil, c'est à voir en fonction des informations. Ça se trouve, c'est juste que c'était prévu avant ou les personnes n'ont pas approvisionné. Enfin, tu sais, j'essaye quand même de se dire qu'il y a peut-être d'autres explications. Mais les Américains, ils sont assez virulents, j'ai l'impression. Ils veulent garder leur masque pour eux. Ils veulent un petit peu garder tout pour eux. Que ce soit traitement ou quoi que ce soit. Donc les États-Unis n'est franchement pas un allié, j'ai l'impression, aujourd'hui.
Quand on voit les déclarations de Trump, de toute façon, il minimisait même le truc. Il disait que c'était de toute façon quasiment rien. Jusqu'à, il a fait un retournement de situation. Maintenant, on est le 4 avril. Je crois qu'il a commencé à dire ouais, non, ça devient un peu important. Il n'y a même pas deux semaines, sachant qu'il y avait encore les trucs de Spring Break et tout qui arrivaient avec les gens qui étaient sur les plages et que pour lui, c'était pas important. Jusqu'à temps où là, quand même, il commence à enregistrer un nombre important de cas et d'un coup, ça a explosé en fait. On regarde les chiffres. Je crois qu'ils sont passés des fois plus de 100 000 cas en l'espace de quelques jours quoi. C'était hallucinant quand on voit l'évolution. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi des choses qui étaient très impressionnantes où ils arrivaient à localiser par les téléphones des gens qui étaient sur les plages. Ils avaient juste limité à 5000 personnes et après ils arrivaient à voir tous les déplacements de toutes ces personnes-là sur tout le reste du territoire, où est-ce qu'elles sont allées exactement. Etc. quoi.
Ouais, exactement. C'est assez effrayant de voir ça. Et ils ont fait un volte-face. Bon, mais maintenant c'est fait. Ils ont payé un petit peu les conséquences, visiblement, à New York, avec un taux de décès qui est assez impressionnant. Tout ça, ça s'est fait un petit peu dans l'urgence, alors que franchement, on avait du recul, même si c'était la Chine qui visiblement faussait ses chiffres. Alors, je sais pas si t'as entendu parler de ça, tu sais, vis-à-vis des décès.
Oui, bien sûr, avec les urnes funéraires, justement, où il y a beaucoup plus de gens qui vont aller chercher des urnes funéraires que les chiffres officiels de ce qu'ils annoncent en termes de morts.
Ouais, c'est ça, tu peux multiplier par 3, visiblement.
C'est ça.
Pareil, au niveau des abonnements téléphoniques qui ont été résiliés. Après, ils avaient commencé au niveau des traitements, tu sais, ils avaient commencé au niveau de la chloroquine, mais ils ont pas donné plus d'informations que ça. C'est compliqué, en fait. Je pense que maintenant, au niveau politique, ça révèle énormément de choses, tu vois. Que ça soit dans l'Europe, où t'as pas mal de pays de l'Europe qui ont dû s'excuser parce qu'ils avaient pas soutenu l'Italie. Tu vois la Russie et Cuba qui arrivent en tant que sauveurs pour aider tout le monde. Tu vois les États-Unis qui se replient sur eux-mêmes, la Chine qui veut nous aider. Enfin, du coup, il y a tout un problème géopolitique derrière, je pense aussi.
Mais pareil, je pense que là, l'Angleterre aussi, ils sont vraiment dans la merde pour le coup parce qu'ils ont deux semaines de retard sur le confinement, sachant qu'en plus Boris Johnson voulait sur attends, c'était quoi ? C'est herd immunity, donc c'est l'immunité de groupe, justement, ouais. Sachant que apparemment le Covid-19, tu peux l'attraper deux fois. Enfin, il y a déjà eu des cas où il y avait apparemment pas d'immunité qui se développait puisque tu pouvais l'attraper une deuxième fois. Et là, c'est aussi au Brésil. Brésil, moi, la situation m'inquiète beaucoup parce que à Bolsonaro, concrètement, il est en train de vendre le truc comme non, mais c'est juste une petite grippe passagère, et il est en train d'engueuler les gouverneurs de, par exemple, je crois que c'était Sao Paulo, qui avait mis en place un confinement assez strict, jusqu'au point où même t'as des gangs de rue, je crois que c'était à Rio de Janeiro, qui disaient bah voilà, dans les favelas, ouais, vous sortez pas parce que si le gouvernement veut pas appliquer le couvre-feu, nous on le fera, et voilà quoi. C'était hallucinant, mec, ce que j'ai vu passer, j'étais là, je fais wow, c'est compliqué. Hein.
Après, lui, son excuse à Bolsonaro, je crois que c'est au niveau du taux de chômage, il dit bah non, on va avoir beaucoup trop de chômeurs. Et effectivement, c'est ce qui se passe aux États-Unis, mais l'un dans l'autre, dans tous les cas, il faudra se confiner, je pense, et il y aura un taux de chômage qui explosera. Donc tant qu'à faire, autant limiter le nombre de morts.
Ouais, parce qu'en fait, là, j'ai quand même l'impression, quand dans la gestion de la crise française, en fait, enfin, l'économie a prévalu sur la santé publique, dans le sens où on a continué à faire travailler des secteurs qui étaient non essentiels dans la lutte du Covid, histoire que l'économie ne prenne pas un trop gros coup d'un coup. Mais est-ce que c'est pas reculer pour mieux se planter, en fait?
Ouais, tout à fait. Alors, est-ce que c'est ça? L'avenir nous le dira aussi, puisqu'économiquement, on est quand même assez dans, on est dans un flou général. On sait que la bourse, il y a eu un crash boursier. Alors, j'ai plus la date. Franchement, effectivement, au niveau national, ça va être très compliqué. Et ça, par contre, je pourrais pas t'en parler plus. Juste attendons de voir. Mais effectivement, il va y avoir un plan de relance. Tout ça, quoi.
Ouais. Ah bah, de toute façon, je pense que s'il n'y a pas une injection massive de liquidité au niveau des commerces, au niveau de la culture, etc., il y a énormément de gens qui vont se retrouver sans emploi ou même sans business, quoi, sans truc, quoi.
Bien sûr.
S'il y a une perte d'activité pendant 3-4 mois, c'est énorme. Hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des liquidités pour tourner à vide pendant autant de temps.
Ouais, souvent, un mois, ça semble aller, mais 2-3 mois, ça semble quand même très compliqué pour la plupart des petits entrepreneurs, on va dire ça comme ça. En tant qu'infirmier, excuse-moi, pour rester sur le côté financier, je vais parler aussi de mon domaine. Attendons de voir justement la prime promise par la prime exceptionnelle promise par Macron. Attendons de voir aussi, puisqu'on attend quand même énormément de cette situation. On espère qu'elle permettra d'améliorer notre condition de travail avec plus de lits, plus de matériel et surtout plus de soignants. C'est pas forcément la rémunération qui intéresse, mais surtout la qualité de travail, j'ai l'impression. Donc on espère qu'on sera réévalué, quoi.
Et est-ce que tu penses que les coupes budgétaires qui ont été effectuées là sur bah maintenant, ça fait plusieurs années qu'on tape sur le service public et notamment la santé. Est-ce que tu penses que ça a vraiment impacté la gestion de la crise avec un manque de personnel et de moyens?
C'est sûr que le manque de personnel n'aide pas, puisqu'on a quand même des soignants des fois qui présentaient des symptômes qui n'ont pas pu se mettre en arrêt puisque les services sinon ne tournaient plus. Donc on aurait eu plus de soignants, évidemment que ça aurait mieux tourné. Donc là-dessus, c'est indéniable, on manquait de soignants, quoi.
Et au niveau des moyens financiers, des lits, etc., est-ce que ça a mis en face,
alors,
ça a mis
des...
en lumière plus les manquements, en fait, de l'hôpital public?
Au niveau des lits, par contre, ce qui est assez impressionnant, c'est que on avait 5000 lits de réanimation en France. Visiblement, on a réussi à faire à créer 5000 lits, et le but, ce serait d'atteindre 15000 lits de réanimation. Donc par contre, là, on a été assez efficace, et comme je vois sur Caen, en fait, en fonction du nombre de patients, on débloquait 5 lits en plus. En fait, on avait toujours un coup d'avance, et on a réussi à tout créer de A à Z, des services qui n'étaient pas spécifiquement du soin continu. On réussit à devenir du soin continu. Donc sur ce plan-là, chez nous, ça a été plutôt bien géré, mais on n'a pas vécu ce que vit l'Est et Paris. En ce moment, en Normandie d'ailleurs, il y a eu une cinquantaine de patients qui sont arrivés, donc du Nord et de Paris. Des patients en état grave nécessitant une ventilation artificielle. Donc en ce moment, sur l'hôpital, donc le CHU de Caen, aujourd'hui, alors je te parle, il y a une quarantaine de cas en réanimation, ce qui est pas énorme d'un premier coup d'œil, mais d'un second coup d'œil, quand même, c'est des patients qui nécessitent énormément de surveillance. En gros, il faut un infirmier pour deux patients, il faut des aides-soignants, il faut une équipe médicale, donc ça demande, chaque patient demande énormément d'attention. Donc voilà, il y a énormément de travail derrière chaque patient, c'est ce que je voulais te dire, quoi.
Quand tu dis réa, en fait, c'est le service de réanimation, c'est lorsque tu traites justement des patients qui sont très très atteints, c'est ça?
Alors, pour te la faire simple, visiblement, le virus, il provoquerait une inflammation au niveau des poumons. Cette inflammation, en fait, toute cette réaction, elle fait que la ventilation se fait moins bien au niveau des alvéoles. L'air qui rentre dans les poumons arrive à gonfler les alvéoles, mais malgré, à cause de l'inflammation, je veux dire, l'oxygène n'arrive pas à passer cette barrière d'alvéolaire et à passer dans le sang. Ce qui fait qu'on a des patients, même si on leur apporte 100% de d'oxygène dans l'air, ils vont pas réussir à bien le capter. Donc c'est des patients en SRA, on appelle ça en SRA tout simplement. Et donc ces patients, ils nécessitent une intubation pour contrôler tous les volumes, toutes les pressions au niveau respiratoire.
Ouais.
Et dans les cas extrêmes, de les mettre en décubitus ventral. Alors je sais pas si t'en as entendu parler, on en parle pas mal en ce moment, c'est le fait de mettre les patients sur le ventre.
Mmh.
Et ces patients, ils sont totalement endormis, bien sûr. Ils sont ventilés artificiellement. Et le but de les mettre sur le ventre est d'augmenter la capacité pulmonaire et de favoriser les sécrétions. Ça, c'est quand même très très lourd pour un patient. Hein. Pour un patient, ouais. il passe 16 heures sur le ventre avec des traitements qui l'endorment, qui enlèvent la douleur et qui inhibent tout mouvement moteur des muscles. Ce qui fait que le patient peut s'abîmer très rapidement et d'autant plus que c'est des patients qui décompensent sur le plan rénal et hépatique, visiblement.
Donc, en fait, cette résolution de problème en entraîne d'autres.
Oui, voilà, c'est ça. Hein. Au final, on part quand même d'un virus qui crée une inflammation et après, on peut avoir des patients qui décompensent sur plusieurs organes. Au niveau des traitements, quand même, puisqu'on utilise des traitements, visiblement, quand on utilise la chloroquine, pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour savoir ce qu'il en est. C'est un petit peu le bazar aussi. Je pense qu'il y a tout un grand débat à faire sur les études du professeur marseillais.
Raoult, ouais.
Exactement, donc attendons de voir. Il y a aussi le Canada qui parle d'un traitement, la colchicine, pareil, un traitement qui existe depuis longtemps pour les crises de gouttes. Ils font des tests, là, une expérience sur 6000 patients, ouais, sur un panel de 6000 personnes. Donc à voir, déjà, il faudrait qu'on puisse améliorer la capacité de dépistage. Et voir comment on peut guérir ses patients.
Mais par contre, après, tu vois, quand je regarde d'autres pays, notamment, je crois que c'est la Corée du Sud qui a eu une gestion de la crise assez exemplaire, notamment, où elle a procédé à des tests massifs, en fait, sur la population. Est-ce qu'on n'aurait pas beaucoup à apprendre d'eux et, justement, est-ce qu'on n'aurait pas pu mieux gérer un peu comme eux ou vraiment dépister un énorme pan de la population et même continuer à le faire de manière suivie?
Alors, effectivement, on aurait pu faire ça et c'est ce qu'a fait l'Allemagne. Et pour l'instant, l'Allemagne limite les dégâts, on va dire ça comme ça. Alors je pense que oui, le fait de dépister le plus de personnes marche bien. Par contre, ça a un grand défaut, c'est que tu dépistes quelqu'un à un instant T. Il ressort faire ses courses une demi-heure après et il l'a peut-être chopé alors qu'il l'avait pas, et là tu vas pas le retester en fait. Donc je pense que le dépistage à grande échelle va peut-être être plus important pour la sortie de confinement pour nous actuellement.
Ouais. Bah après, quand tu es en période d'incubation, est-ce que tu peux quand même transmettre le virus ou c'est uniquement quand tu commences à développer les symptômes que là, tu peux transmettre?
Non, c'est à partir de la période d'incubation, c'est ça qui est assez vicieux.
Ah ouais.
Et au début des symptômes, faut savoir que les patients, en moyenne, ils avaient 5 jours en moyenne d'incubation, donc c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de symptômes, mais ils étaient porteurs. Et ensuite, ils pouvaient être malades souvent 2 semaines. Hein. Visiblement, les gens sont malades assez longtemps. Souvent, les gens se plaignent, au début, ça commence par des céphalées, ouais, des courbatures, de la fièvre, donc le syndrome grippal, et ensuite vient la toux, et puis sans oublier aussi, oui j'ai oublié, la perte d'odorat quand même, qui serait un des premiers signes, et qui serait un des signes très évocateurs de ce Covid.
Après aussi le gros problème c'est que vous n'avez pas, comment dire, moyen de lutter directement contre le virus, vous luttez uniquement contre les symptômes qu'il développe.
On lutte effectivement au niveau des traitements, on lutte un petit peu contre le virus si, pour la chloroquine, il y a aussi des antiviraux qui sont habituellement utilisés contre le sida, visiblement, qui seraient utilisés, mais on n'en sait pas plus. Alors, à voir si c'est vrai ou pas. Mais on essaye de limiter les autres infections qui peuvent venir avec des antibiotiques. Mais par contre, on laisse le virus aussi faire un petit peu son temps, mais on essaye de le combattre comme on peut. Tu vois, genre, on n'a pas de traitement contre les grippes, on n'a pas de traitement contre les rhumes, qui sont aussi des virus. On n'a pas de choses efficaces, mais on a les vaccins, par exemple. Donc, à voir si un jour il y aura un vaccin contre ce coronavirus.
Mais après, le développement d'un vaccin, ça prend énormément de temps. Si je me souviens bien, en moyenne, c'est quoi? C'est du 14 mois, 16 mois, non?
Ouais, alors il y a certains pays qui disaient qu'ils étaient capables de le faire en 6 mois. Donc, comme dirait ma grand-mère, on a le temps de tirer nos godasses, quoi.
Et au niveau, comment dire, de la sortie de crise, on sait pas du tout jusqu'à quand ça va durer, quoi.
Non, 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 franchement, tu sais, il y a tellement d'informations. Moi, je peux pas plus t'aiguiller là-dessus. La date officielle, je sais même pas quand elle a été remise, au 15 avril.
Ouais, c'est beaucoup trop ambitieux.
Effectivement, c'est ambitieux. Il parle de levée de confinement par région, effectivement, puisqu'il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres. Ensuite, il y aurait l'hypothèse par catégorie de gens, on va dire par exemple les jeunes. Et il y a aussi l'hypothèse de faire sortir les personnes qui aient développé des anticorps. Donc pour ça, du coup, il faudrait les tester.
Mm-hmm.
Et si ces personnes redeviennent des porteurs sains ou quoi que ce soit, ils pourraient le retransmettre à d'autres personnes plus âgées et plus à risque. Donc pour l'instant, on est un petit peu dans le flou.
Mais la sortie de confinement, en fait, même juste partielle ou quoi, c'est quand même extrêmement dangereux, je trouve. Enfin, déjà, on ne peut pas complètement contrôler la libre circulation des personnes, puisque bah, justement, on est quand même un pays où voilà, on peut se déplacer d'un endroit A à un endroit B, même si on a nos attestations. On peut, bah, tu peux avoir quelqu'un qui se déplace très loin et transmettre encore à d'autres régions.
Ouais, c'est sûr. Hein. Et de toute façon, au niveau mondial, je ne sais même pas quelle région n'est pas touchée et quel pays n'est pas touché. Visiblement, ouais. Il y a des pays d'Afrique qui sont moins touchés, mais est-ce que c'est parce qu'on ne fait pas de dépistage? Enfin,
j'en sais rien, il y a moyen qu'il y ait eu beaucoup moins de dépistage là-bas aussi. Hein.
Alors, il y avait une phrase, c'était que c'est pas le virus qui voyage, c'est juste les gens. Et effectivement, les gens ont voyagé énormément. Ouais. Et le risque, ce serait que en fait, ce virus s'éteigne un petit peu avec la saison. Visiblement, avec la chaleur, il semblerait que ça diminue. Mmh. Et qu'il revienne en puissance après, en fait, parce qu'il y aura forcément des régions du globe qui auront des patients Covid positifs, quoi.
Oui. Donc en fait, s'il peut se calmer là, il peut revenir vraiment en pleine puissance après, quoi. Si on recommence les mêmes pratiques qui ont permis son développement en premier lieu, quoi.
Bon, apparemment, c'est ce qui serait passé pour la grippe espagnole. Alors, on est quand même dans une période où on a beaucoup plus de techniques et beaucoup plus de matériel. On va pouvoir beaucoup plus anticiper. Mais c'est ce qui s'était passé effectivement pour la grippe espagnole. Mm. Donc, à voir comment ça évolue, on mise énormément sur les traitements et en fait sur le fait d'accueillir les patients graves sur la durée et de ne pas les accueillir d'un coup. C'est vraiment ça qui nous permet de bien les prendre en charge, de bien les soigner et de faire attention à eux. De ça, il va ressortir plein de choses sur les risques aussi, par exemple sur les patients fumeurs, les patients diabétiques, les patients qui font de l'hypertension, les patients obèses. On va pouvoir faire un petit peu d'éducation et peut-être les aider à être moins fragiles vis-à-vis de ce virus.
Donc en fait, le confinement a avant tout un impact sur la saturation des hôpitaux et permet justement de réduire la courbe de transmission.
Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Ça permet de limiter la courbe de transmission et de prendre plus efficacement en charge. Voilà, c'est juste ça. Alors, on a vu effectivement dans certains EHPAD où il y avait une dizaine de patients qui l'avaient d'un coup. Et déjà que c'est compliqué de prendre en charge des personnes qui ont beaucoup d'antécédents et de comorbidités. Alors là, s'ils viennent tous d'un EHPAD en même temps, imaginez pour un hôpital, là on a 30 lits en réanimation, si les 30 lits, enfin 40 lits occupés, et si les 40 lits sont occupés par juste un EHPAD, enfin c'est pas gérable, quoi.
Est-ce que vous avez dû, parce que j'ai entendu des histoires comme ça, où les soignants faisaient des choix pour savoir qui sauver par rapport à qui avait le plus de chances de s'en sortir, est-ce que vous avez dû faire ce genre de choix absolument, voilà quoi, horrible?
Alors comme je te disais, non, on n'a pas de... Enfin moi j'ai pas travaillé en réanimation là actuellement avec des Covid, donc j'ai pas eu des situations où on savait pas si on intubait ou pas, c'est-à-dire qu'on prolongeait les soins, en gros, parce que souvent l'intubation est le seul passage pour les patients assez graves, donc j'ai pas du tout vu ça, j'ai pas entendu parler de ce genre de situation. On a réussi franchement à soigner de manière tout à fait correcte et honorable, si je puis dire, malgré quand même pas mal d'événements qui ont compliqué ça, mais on a entendu parler de choses comme tu parles, à Paris effectivement, où il y a des soignants qui ont enregistré à l'insu de cadres ou quoi que ce soit, donc chose que je cautionne pas du tout, où des cadres disaient, bon, au-dessus de 70 ans, c'est terminé, on s'occupe plus d'eux, quoi. Ouais. Donc, visiblement, ça se fait autre part, mais j'ai pas vu ça chez nous, pas du tout.
Ouais, bon, bah écoute, c'est déjà un petit peu ça, mais ça va être compliqué, enfin, en tout cas, les prochains mois, parce que déjà, je le vois sur les personnes qui respectent pas spécialement le confinement, ou même qui sont égoïstes, hein, finalement, parce que, bah tiens, ouais, comme le mec qui avait fait le buzz sur Internet au Spring Break aux États-Unis, qui disait, à la fin de la journée, je dois être le Covid. Mais bon, ça m'empêchera pas de faire la fête, quoi. Et tu fais putain, ouais, genre c'est en fait c'est ça, c'est que faut arrêter de sortir un petit peu du ce côté assez vraiment chiant et il fait beau en plus dehors, se dire bah ouais, on fait un effort pendant 2-3 mois, mais après on pourra peut-être à peu près revivre, quoi, parce que là on retarde juste l'échéance de la crise, quoi.
C'est ça, ouais, on vit tous la même chose, hein, donc c'est compliqué, ouais, pour tout le monde. Après, je pense que ce serait bien dommage de se dire, ah bah mince, j'ai pas respecté le confinement, j'ai quelqu'un de ma famille, de mon entourage qui est décédé, alors qu'il était jeune, qu'il avait pas d'antécédents. Enfin, pensons un petit peu aussi de une à notre entourage, aux autres personnes qui sont fragiles, et puis pensons aussi aux soignants qui pourront pas soigner correctement s'il y a trop de personnes qui arrivent en même temps, quoi.
Mais ouais, enfin, pour moi, je trouve que, en tout cas, vouloir relancer l'économie ou du moins ramener les gens au travail dans une période aussi tendue, c'est pour avoir une nouvelle crise financière qui va arriver encore plus forte s'il y a encore plus le virus qui se propage et qui explose, en fait.
Ouais, c'est ça. Et puis le confinement durera encore plus longtemps. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Enfin, faut pas être trop pressé, faut faire les choses correctement. Et avec ça, on arrivera à réouvrir des choses un petit peu. Là, j'ai vu que pour le bac, ça va être compliqué de reprendre les cours et même de faire un bac en présentiel. Donc déjà il y a des mesures qui sont prises et on sait que ça va nous mener à assez loin. On en a au moins pour l'été, enfin les étudiants en ont au moins pour jusqu'à l'été. Donc voilà.
On est dans une situation qui est assez inédite, hein, parce que je me suis intéressé pas mal à l'histoire, et quand on regarde en termes d'épidémie et du moins d'une telle ampleur, je pense que l'une des dernières vraiment comme ça, c'était la grippe espagnole, sauf que c'était déjà il y avait un taux de mortalité qui était largement plus important, et par contre le monde à l'époque était beaucoup moins interconnecté que ce qu'il est maintenant en termes de déplacement. Ouais. On avait beaucoup moins de possibilités de prendre l'avion, d'aller dans un autre pays, et voilà, c'était même le bateau, tout ce que tu veux, et ça a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale.
C'est
ouf.
Et puis après, bon, c'était en sortie de guerre, donc effectivement, il y avait beaucoup
les
de transit.
Les gens étaient affaiblis, ouais.
Et les gens étaient affaiblis, il y avait beaucoup de transit, et donc oui, déjà, ça a favorisé. Donc là, c'est vrai qu'on est face à quelque chose d'inédit, mais visiblement, c'était anticipé. Il y avait quand même plusieurs personnes qui avaient mis en alerte. Il y avait aussi le virus H1N1 qui avait quand même aussi mis un peu les pieds dans le plat, on va dire ça comme ça. Donc c'est quelque chose, on savait que ça arriverait potentiellement. Ça arrive aujourd'hui, donc on est obligé de faire face, et voilà.
Ouais, faut se préparer à plusieurs semaines, enfin plutôt moi je pense à ce niveau-là, difficile hein, pour tout le monde, ne pas être égoïste et essayer de prendre des mesures pour que notre prochain, ou même nous-mêmes, ne soyons pas impactés aussi durement que ça a pu l'être dans d'autres pays, quoi.
Tout à fait, quand on voit des vidéos très choquantes, des situations vues dans les hôpitaux en Italie, ça donne vraiment pas envie. Faut vraiment se rendre compte de ce qui se passe dans les services d'urgence et de réanimation en ce moment. C'est très compliqué et du coup, il faut vraiment respecter ce confinement. Il y a plein de manières de s'occuper. Toi qui es dans la radio ou la musique, tu peux être le premier à en parler. Il y a plein de plateformes qui mettent à disposition des choses pour s'enrichir personnellement. Rien que faire du sport. Je sais pas, il y a 36 000 manières de s'occuper.
Ouais, puis sachant que tu vois, avant notre pays pouvait nous demander d'aller faire la guerre, de prendre les armes, etc. Voilà, genre là on nous demande de rester le cul sur notre canapé, y a pire quoi.
Ouais, c'est assez rigolo, mais dans tous les cas, je pense qu'on sera tous à en parler à nos enfants ou à nos petits-enfants, comme quoi c'était quelque chose d'inoubliable, mais dans le côté négatif quoi. Enfin, c'était bien vraiment sûr. Quelque chose qui sera ancré dans les livres d'histoire, et j'espère qu'on apprendra plein de choses sur ça, qu'on prendra plein de mesures et qu'on fera un petit peu plus attention à ce qui se passe autour de nous, juste autour de nous.
En tout cas, j'espère aussi que les responsables politiques vont aussi avoir des conséquences par rapport à leur manquement aussi, parce que je pense qu'il y a eu réellement une très très mauvaise gestion de la crise, un déni, même carrément de la désinformation, et je trouve que dans une situation de crise comme ça, la vérité est la seule manière en fait de combattre efficacement la chose. Si tu as tendance à minimiser la chose, les gens disent c'est pas grave, on peut aller au but de Montmartre et être sous le soleil à moins de 50 cm de l'autre, au moment d'aller faire son petit marché, comme on a pu le voir au tout début de la crise où le confinement allait être déclaré dans les prochains jours, où les gens, ils avaient un rayon de soleil, ils étaient tous dehors, c'était hallucinant. Un juste milieu, mais sauf que le gouvernement souffrait déjà tellement d'un problème de confiance par rapport à toutes les crises sociales qu'il y a eu auparavant, que les gens, en fait, ne croyaient pas un traître mot de ce qu'ils disaient, quoi.
Oui, c'est sûr, et puis on va même pas parler des municipales. Hein, donc,
Donc,
il y a des plaintes qui ont été posées à voir.
Oui, le site Covid-19, enfin plainte Covid-19, j'en ai parlé dans une émission. C'était quand c'était peut-être jeudi ou vendredi.
On parlait de plainte Covid-19, très bien.
Donc on verra un petit peu comment la situation évolue, je vais pas non plus trop spéculer sur la situation.
On sent un petit peu écœuré sur justement le retard du confinement, ce genre de choses. Mais faut pas rester dans ce qui s'est fait. Maintenant on a quand même une situation, y a plein de choses qui ont été faites pour que ça se passe correctement. C'est des personnes qui ont quand même travaillé dessus, que ça soit dans nos hiérarchies ou même au niveau politique. Il y a forcément du bien qui était quelque part, alors faut essayer de faire ressortir ce bien pour l'avenir.
c'est sûr. De toute façon, voilà, on verra un petit peu comment la situation évolue. Je te remercie en tout cas pour tes réponses. C'était super intéressant de t'avoir au téléphone. Donc je vais essayer de diffuser cette interview lundi. Donc voilà, pour nos chers auditeurs de Radio Pulse. Et ben en tout cas, je te remercie. Je te souhaite donc plein de bonnes choses pour la suite. Bon courage à vous, donc tout le personnel soignant, mais aussi tous ceux qui font aussi des livraisons par camion, tous ceux qui sont obligés de travailler. Je pense notamment à toutes les caissières, caissiers. Voilà, toutes les personnes qui sont obligées de travailler, notamment pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Enfin voilà, toutes les industries pharmaceutiques et tous ceux que j'oublie évidemment. Mais en tout cas, voilà, bon courage à vous et puis bah, merci de faire ce que vous faites, quoi.
Bah merci bien et puis bah, bon courage à toutes ces mêmes personnes. Mmh. Et voilà, on va voir comment ça évolue et faut garder le sourire.
Ça marche. Bon bah écoute, bonne journée à toi et puis bah à très bientôt.
Salut.
Salut.